Bonjour, monsieur Niamitchoué.
Bonjour Florent.
Votre pays vient de décider de sortir de la Cour pénale internationale. Ce n'est pas le premier pays en Afrique qui a souhaité sortir de la CPI, mais vous avez franchi un pas en avant. Et qu'est-ce qui justifie cette décision aujourd'hui qui fait polémique au moment où le pays traverse une crise politique?
Le Burundi ne traverserait pas de crise politique si il n'avait pas été victime d'ingérence étrangère. Je crois que ce n'est pas faux de dire que la question, les questions politiques burundaises sont des questions qui regardent d'abord et avant tout les Burundais eux-mêmes et qui par conséquent doivent trouver une solution dans le cadre national. Malheureusement, certains pays, certains États ou certaines organisations ont cru avoir le devoir moral de donner des leçons aux États africains, de vouloir interpréter les constitutions à leur place et de diriger pratiquement leur pays par procuration, à travers des personnes qui se choisissent eux-mêmes ou qui portent mieux dans leur cœur que nos dirigeants. Dans le cas du Burundi, il y a eu un débat sur la constitution, il y a eu un débat sur l'éligibilité du président, et je crois que le débat a été tranché de la manière la plus claire par la Cour constitutionnelle, qui est l'organe, le seul habilité par la constitution du Burundi à dire le droit sur les questions de constitution et questions d'interprétation de celle-ci.
Et comme le président tchadien, le président de l'Union africaine vient de l'a confirmé au micro de la Deutsche Welle, comme quoi le président Nkurunziza est reconnu par l'organisation panafricaine.
Absolument, il n'a jamais été autrement. Le Burundi, depuis ces élections, n'a jamais été suspendu de l'Union africaine. Ça aurait été, la première décision à prendre aurait été d'interdire le Burundi d'être membre de l'Union africaine, de suspendre le Burundi d'être membre de l'Union africaine, s'il y avait eu un changement inconstitutionnel.
Mais l'Union africaine a envoyé quand même une mission qui, en ce moment, travaille sur la situation au Burundi et aussi avait voulu, entre-temps, envoyer une force multinationale pour sécuriser le pays.
C'est cette histoire de force, de Maprobo, etc. C'était des idées extra-africaines. Et tout le monde le sait aujourd'hui. La Commission de l'Union africaine a joué, a voulu faire plaisir peut-être à certains acteurs de la communauté internationale. C'était leur choix. Malheureux, malheureusement, on doit dire.
Et selon vous, la crise au Burundi ne nécessitait pas, ou bien ne nécessite pas aujourd'hui, l'intervention d'une force pour protéger les civils, ou bien pour protéger le pays de certaines attaques qui, jusqu'à présent, continuent de faire des victimes?
Permettez que je dise que jusqu'à aujourd'hui, le Burundi a su faire face aux attaques extérieures et intérieures avec brio. Je crois que vous pouvez vous rendre compte qu'au bout de 1 an et demi, depuis le début, depuis l'insurrection d'avril-mai 2015 à Bujumbura, la tentative de coup d'État du 13 mai 2015, le gouvernement est toujours en place, l'administration est toujours en place, l'armée et la police font le travail. Donc, les institutions de la sécurité font le travail comme il faut. Il y a un État qui fonctionne, il y a une administration qui fonctionne, et ça, je suis désolé, tout le monde doit le reconnaître. Et je crois que quand le président de l'Union africaine lui-même doit dire qu'il y a un État, qu'il y a un gouvernement, qu'il y a un président élu, je crois que les spéculations devraient cesser.
Mais ces propos font polémique.
Polémique où? Ben, c'est ceux justement qui voulaient un changement de régime, qui ont toujours porté le projet de changement de régime par la rue ou par les armes, et qui n'ont pas abouti ni par une manière ni par l'autre. Donc pour nous, c'est le débat qui continue. Bon, ceux qui veulent ressasser le débat, si oui ou non le président comme on disait, devrait se faire élire ou non, peuvent le continuer. Mais la vie continue, le peuple continue, ça marche.
La vie continue, mais votre aventure ou bien votre marche vers une justice internationale s'interrompt brusquement au moment où un pays comme le Gabon a choisi volontairement de saisir la juridiction, cette juridiction internationale. Vous avez décidé de faire marche arrière.
Mais justement, c'est exactement ça. Ce sont des choix souverains. Le Gabon a choisi souverainement de saisir la CPI, le Burundi a choisi souverainement de sortir de la CPI. Je crois que c'est tout à fait normal. Quand le Burundi avait rejoint la CPI, il n'avait pas demandé l'autorisation de qui que ce soit. Et en sortant, il ne l'a demandé à qui que ce soit non plus.
Mais le Burundi a souvent accusé, a régulièrement accusé certains opposants ou bien acteurs de la société civile d'être derrière les violences. Est-ce que ce n'est pas le moment plutôt au Burundi de demander à cette juridiction de se saisir de ces cas?
Non, 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 pas, non, pas du tout. Parce que le Burundi a aussi émis des mandats d'arrêt internationaux. Et ces mandats d'arrêt, qui sont distribués par le canal d'Interpol, sont disponibles pour que les États dans lesquels se trouvent ou résident ces activistes ou ceux qui ont, enfin, qui sont présumés en tout cas acteurs de violence au Burundi puissent être appréhendés et répondre de leurs actes. Cela ne nécessite pas nécessairement une intervention de la CPI. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Bon, pour ceux qui ont choisi d'utiliser la CPI, n'ont qu'à le faire. Mais nous, ce n'est pas le choix que le Burundi a fait. Un choix très populaire, parce que vous avez vu, c'est quand même une très très grosse majorité au Parlement, une très grosse majorité au Sénat. Je ne crois pas qu'on puisse remettre en cause un tel choix. Maintenant, est-ce que la CPI, c'est le meilleur instrument que l'Afrique s'était choisi il y a 20 ans à peu près? Je ne suis pas certain que la plupart des États africains qui avaient adhéré en masse à l'époque gardent le même sentiment aujourd'hui. L'Union africaine, pour ne pas la nommer, a déjà été saisie plusieurs fois par des États partis au traité de Rome établissant ces pays ou non partis à ce traité, aux fins de voir tous les États partis sortir en masse. L'approche n'a pas encore bénéficié de la majorité des États partis, mais le débat est avancé. Je sais très bien que dans plusieurs réunions de l'Union africaine, il a été dit, ceux qui veulent sortir, ils n'ont qu'à partir. On les comprendra. La preuve, c'est que vous avez vu une déclaration de la Commission de l'Union africaine qui disait que non, on est inquiet que le Burundi sorte de ce pays. Vous n'en aurez aucune. Pourquoi? Parce que l'Union africaine est absolument saisie de la question et comprend parfaitement les doléances des pays partis à la CPI et qui ont des problèmes, qui ont des difficultés avec cette organisation, qui, il faut le dire et le répéter, est manipulée par d'autres puissances qui n'est pas nécessairement indépendante comme le traité de Rome le dit dans son article 42. Je crois qu'il faut quand même reconnaître aujourd'hui que la plupart des cas qui ont été traités par la CPI sont des cas africains. Est-ce que vraiment, est-ce pour dire que les crimes se commettent vraiment seulement en Afrique? Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, ce qui s'est passé en Irak durant les 15 ou les 16 dernières années, ce qui s'est passé en Afghanistan, ce sont des Africains qui ont commis ces crimes-là. Et ces crimes ne devraient pas être poursuivis. Essayez de poser la question. Est-ce que vous pensez que la procureure de la CPI a les mains libres pour poursuivre tous ces cas? Vous croyez vraiment? Une organisation qui dépend de plus de 60% du budget, de son budget, de la contribution d'une seule région. Je n'ai pas envie de la nommer ici. Vous estimez que cette organisation est indépendante? Et elle le serait comment? Si elle ne l'est pas financièrement, pour commencer. Autant on dit que l'Union africaine n'est pas une organisation indépendante, autant je dis que la CPI ne l'est pas non plus.
C'est l'argument aussi avancé par certains responsables africains, mais comme vous venez de le dire, vous avez parlé de certains mandats d'arrêt qui ont été émis à l'encontre de certains opposants accusés d'avoir commis des crimes au Burundi ou bien d'être derrière les violences. De même, il y a aussi certains proches du pouvoir, par exemple, certains responsables des Imbonerakure qui aussi serait responsable de certains crimes. Mais jusqu'à présent, selon vos détracteurs, aucun mandat d'arrêt international n'a été émis à l'encontre de ces derniers, ce qui justifierait le maintien du Burundi instrument.
Ce que vous dites milite exactement en faveur du retrait de ce pays. Pourquoi? Si le gouvernement le voulait, il aurait demandé à la CPI de poursuivre ces gens. Si j'ai bien compris. Et si ces gens, ces activistes, estiment que le gouvernement n'est pas en train de faire son devoir, ben, d'ailleurs, et ce n'est pas un secret, c'est eux-mêmes qui ont saisi la CPI. C'est eux-mêmes qui sont allés voir Madame la procureure de la CPI pour qu'elle puisse se saisir du cas burundais. Elle s'en défend en disant que non, ce n'est pas parce qu'on l'a saisi qu'elle a décidé d'agir, qu'elle avait déjà décidé d'agir de manière indépendante. Elle n'a pas convaincu et ne peut pas nous convaincre parce qu'on sait absolument que la CPI est une organisation qui a été mise en branle, sous le Burundi en tout cas, par d'autres forces qui ne sont pas nécessairement celles qu'on voit. Mais ce qui est certain, et sûr et certain, et qu'on pourra dire et redire, c'est qu'elle ne peut pas prétendre être une organisation indépendante, comme le traité de Rome le dit, aussi longtemps qu'elle se laisse manipuler ou qu'elle se laisse balloter dans un sens ou dans l'autre, par des actes posés par des intérêts. Comment voulez-vous que le Burundi croit que cette organisation est une organisation indépendante quand certains activistes qu'on connaît, qu'on sait très bien qu'ils ont joué un rôle important dans la tentative de coup d'État du 13 mai 2015, puissent aujourd'hui être les premiers à saisir ces pays? Au nom de quel principe? Ils ont essayé de changer de régime de manière inconstitutionnelle, ils ont raté leur rendez-vous, et maintenant ils voudraient utiliser cette tribune pour poursuivre leur plan de changement de régime par d'autres moyens. Mais je ne crois pas que ce qui a raté l'année dernière va pouvoir réussir cette fois-ci à travers la CPI. Ce que je recommande en tout cas à la CPI, c'est qu'elle soit une organisation indépendante comme le traité de Rome le demande.
Ce qui même a déclenché le processus de retrait du Burundi de la CPI, c'est le dernier rapport des Nations Unies sur les violences au Burundi. Des rapporteurs onusiens ont fourni une liste de personnes susceptibles d'être sanctionnées. Selon eux, ils seraient derrière les crimes commis dans votre pays. Sur cette liste, il y a certains proches du pouvoir, certains qui ont des postes de responsabilité. Est-ce que cela n'affaiblit-il pas votre gouvernement?
C'est vraiment intéressant quand vous dites qu'ils ont fourni une liste. Non. Dans le rapport qu'ils ont produit, qu'ils ont présenté au Conseil des droits de l'homme lors de sa 33e session fin septembre à Genève, ils n'ont pas donné la liste. Ils ont dit qu'ils ont, eux, une liste de 12 personnes et cette liste n'a pas été présentée ni au gouvernement ni au Conseil des droits de l'homme. En d'autres termes, le Conseil des droits de l'homme a été induit en erreur en votant pour une résolution sur base d'un document incomplet parce que le rapport aurait pu tout au moins annexer, n'est-ce pas, annexer les 12 noms. Vous dites que vous les connaissez, moi, je n'en connais aucun. Deuxièmement, je ne crois pas que ce soit correct de dire que ce qui a motivé le retrait du Burundi de ce pays, c'est ce rapport-là. Non, je crois que chronologiquement c'est correct, mais fondamentalement non. Je ne crois pas que les raisons qui ont été avancées soient celles-là. Mais il est aussi important de reconnaître que les enquêteurs, s'ils avaient fait leur travail convenablement, n'auraient pas dû garder cette liste-là. Ils la gardent pour qui? Ils comptent la remettre à qui? S'ils ont vraiment fait le travail et qu'ils ont trouvé une série de choses qui étaient gênantes et qui étaient graves à leurs yeux, ben ils auraient pu partager cette liste avec le Conseil qui les avait mandatés. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Je considère par conséquent que cette liste-là n'existe pas. Et si elle existait, c'est eux seuls qui savent où elle est et pour qui ils la réservent. Et s'ils la réservent pour un autre organe autre que ce que le Conseil des droits de l'homme qui les avait mandatés, dans ce cas-là, moi, je puis dire simplement que leur travail a été tout au moins incomplet.
Donc, la résolution du Conseil des droits de l'homme, c'est une résolution qui vous a beaucoup fâché.
Bon, et ne nous a pas contentés, ça c'est sûr, tout simplement parce que c'est une résolution qui... le projet lui-même émane de qui? De l'Union européenne, une organisation avec laquelle nous avons des difficultés. L'année dernière, vous avez quand même suivi les débats qui ont été organisés en décembre 2015 à Bruxelles dans le cadre de l'article 96 de l'accord de Cotonou. Les consultations ont continué, les décisions de suspension de la coopération directe entre l'Union européenne et le Burundi ont été prises en mois de mars 2016. Et on se serait attendu à ce que d'autres acteurs puissent être à l'origine de ce projet de résolution, plutôt que l'Union européenne qui, elle, déjà, avait un contentieux avec le Burundi. Nous considérons par conséquent que la résolution elle-même pose beaucoup de problèmes et pose beaucoup de difficultés, ne serait-ce que d'un point de vue moral.
Merci, monsieur le ministre.
Je vous remercie.